Europa Voice numéro 86. Comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, on a beaucoup, hein, beaucoup à parler aujourd'hui, notamment bien toute cette question des sous-marins et la relation française, européenne, australienne qui a quand même été mise à mal ces derniers temps. On n'aurait pas pu le prédire comme n'importe qui d'autre la semaine dernière. On en est où aujourd'hui de cet affront, on peut dire, que la France a reçu de la part de l'Australie?
Alors, effectivement, Christophe...
Je ne mâche pas mes mots. Hein.
Non, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'imprévisible. C'était d'autant plus imprévisible que, j'allais dire, les derniers documents officiels, les dernières discussions officielles font état d'une certaine satisfaction des autorités australiennes sur le programme en cours, pas plus tard que, je crois, jeudi dernier, hein, donc le jour même où le contrat a été dénoncé. Et puis on a vu effectivement, hein, par rapport à la qualification de ce qui s'est passé, un langage diplomatique assez extraordinaire, hein, parce que à la fois en France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, mais également ici, hein, l'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, n'ont pas eux-mêmes mâché leurs mots et ont parlé, et là je reprends leurs termes, hein, le terme notamment de Jean-Yves Le Drian, de couteau dans le dos, d'attaque dans le dos, et de choses qui ne se font pas entre alliés. Donc effectivement, une séquence à la fois imprévisible et extraordinaire en ce qu'elle entraîne même des relations diplomatiques et de la manière dont les diplomates ont géré la crise qui est encore en cours, Christophe.
Ouais, alors si on détaille un petit peu ce qui s'est passé, cet accord australo-britannique, américain, qui a un nom presque imprononçable que je vais même pas essayer de prononcer. On en sait quoi de cet accord? Parce que ça reste quand même un peu une nébuleuse. On sait qu'il y a un accord de sous-marin, il y a un accord de travail ensemble, c'est plus ou moins contre la Chine à mots cachés. On en sait quoi de cet accord?
Alors, effectivement, Christophe, c'est du billard à plusieurs bandes. Ce qu'on sait, enfin en tout cas ce que les analystes disent, c'est que cet accord AUKUS, pour ne pas le nommer, hein, entre Australie, UK et US, hein, c'est vraiment l'idée d'avoir une alliance militaire, d'avoir une capacité de réaction face aux velléités chinoises. Et c'est d'avoir en fait des sous-marins nucléaires, hein, pour la première fois. Pour l'Australie en l'occurrence. C'est les deux choses pour l'instant qui ont plus ou moins été relayées dans la presse, c'est ces deux aspects-là. Après, en fait, dans les détails, on n'en sait pas plus. Et puis il y a plein de questions, Christophe, qui restent encore en suspens. C'est-à-dire que on sait que la France, et notamment par l'intermédiaire, et là aussi c'est assez intéressant parce que c'est une des premières fois qu'on voit Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées, être aussi loquace sur les réseaux sociaux, mais c'est là aussi on voit le rôle au sein des ministères de ces porte-paroles, c'est de faire un peu la pédagogie de dossiers qui sont d'habitude très complexes à saisir, très compliqués, autour desquels il y a beaucoup de fantasmes. Il a expliqué dans un de ses nombreux threads sur Twitter, donc c'est ses feeds d'explications très longs, que en fait si c'était juste une question de fournir des sous-marins nucléaires à l'Australie, la France aurait pu le faire aussi. Donc vous voyez, ça c'est encore un élément, on ne sait pas très bien si c'est la raison, si c'est pas la raison de ce revirement des Australiens. Encore une fois, ce qu'on sait, c'est que cette alliance trilatérale, c'est un partenariat de sécurité pour faire face, le cas échéant, à la Chine avec des sous-marins nucléaires. Voilà, c'est pour moi les deux éléments pour l'instant qui sont à peu près sûrs et à peu près compris et partagés par tous. Et puis derrière, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on va découvrir dans les prochains jours, Christophe.
La réponse européenne, est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer ce qui s'est passé et comment l'Europe a répondu à ça? La France a-t-elle été plutôt isolée ou soutenue? On sait que von der Leyen a parlé, mais c'était il y a un petit moment. Comment on peut évaluer donc ce soutien européen ou pas, ou manque de soutien européen avec un pays membre comme la France?
Alors, on peut dire que, à l'heure à laquelle on enregistre Christophe, hein, donc maintenant, oui, la France ne traverse plus seule, j'allais dire, cette crise des sous-marins. C'était un peu le message d'ailleurs du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, quand il a participé à cette à cette réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 de l'Union européenne à New York en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Donc, à l'heure à laquelle on enregistre, à laquelle on se parle, effectivement, la France est soutenue, a été rejointe par l'Europe et par un soutien affiché cette fois des chancelleries et des pays européens. Par contre, Christophe, ce qui est sûr, c'est que c'est long, hein, entre jeudi, à l'heure à laquelle, auquel la crise a éclaté, et mardi, on a eu 5 jours où on avait l'impression quand même que la France est restée assez isolée sur la scène européenne dans cette affaire des sous-marins. Et c'est surprenant pour deux choses, Christophe. Pour moi, c'est surprenant d'abord, et ça a été très bien rappelé par les mots de l'ambassadeur Jean-Pierre Thébault ici en français en Australie, c'est que le problème, c'est que c'est pas simplement la dénonciation d'un contrat, c'est que c'est la mise à mal d'un partenariat stratégique entre deux pays, mais même entre beaucoup plus d'entités dans une zone extrêmement stratégique du monde qui est l'Indo-Pacifique. Et ça, vraiment, c'est là où on aurait pu se dire que c'était pas simplement à la France, j'allais dire, d'afficher sa surprise, sa colère, mais c'était d'avoir un soutien plus prononcé de l'Union européenne, parce qu'encore une fois, c'est un partenariat stratégique sur 50 ans, avec tout ce que ça implique de souveraineté nationale, d'ailleurs, pour l'Australie, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Christophe, par rapport à cette surprise autour de la non-réaction de l'Union européenne dans les premiers jours qui ont suivi la crise des sous-marins et la dénonciation du contrat, c'est qu'en parallèle, c'est pas comme si rien ne se passait entre l'Union européenne et l'Australie. En parallèle, on est au 11e round de négociations d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. On sait que les rounds de négociations, certains ont été plus difficiles que d'autres. Donc, il se passe des choses très importantes entre l'Union européenne et l'Australie à l'heure où, en plus, la France, Christophe, va prendre la présidence de l'Union européenne en janvier prochain. Et donc, c'est là aussi où on se dit... pourquoi l'Europe a tant tardé à réagir alors qu'on est en plein dans cette négociation et que c'était aussi pour elle l'opportunité de parler d'une voie politique et pas simplement en tant que zone de libre-échange économique améliorée, mais de parler de cette voie politique au moment où une crise majeure survient entre un de ces pays phares et l'Australie. Et donc pour moi, c'est vraiment, il reste encore ces deux interrogations, ces deux incompréhensions sur la non-réaction de l'Union européenne dans les premiers jours qui ont suivi cette crise des sous-marins.
Est-ce qu'on peut évaluer également la réaction australienne? Ils n'ont pas l'air très surpris du mécontentement de la France, ils s'y attendaient sûrement, mais il y a eu des mots quand même qui ont été assez forts. Je pense à Barnaby Joyce qui a aussi dit l'Australie n'a rien à prouver, on l'a déjà prouvé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, fair qu'un État comme l'Australie ait des réponses quasi officiel comme ça?
Alors, je vais dire peut-être quelque chose de pas très politiquement correct, Christophe, vous m'en excuserez, mais tout ce qui est excessif est un peu insignifiant. Et donc, finalement, la réaction de Barnaby Joyce au vu du personnage et cette comparaison entre la Seconde Guerre mondiale et ce qui s'est passé dans ce partenariat, pour moi, est assez insignifiante. J'allais dire, c'est du même ordre que certains déferlements de haine ou propos complètement hors contexte sur les réseaux sociaux. Non, ce qui est pour moi plus intéressant et plus intéressant à analyser, c'est que du point de vue australien, on a mis en avant quelque chose qu'on n'arrive pas encore à faire en Europe, c'est le Australia First. C'est qu'en fait, pour Scott Morrison, et pour les principaux membres du gouvernement, à l'heure à laquelle, encore une fois, l'accord a été dénoncé, à l'heure à laquelle l'accord AUKUS Australie-UK-US a été signé, la meilleure chose à faire pour l'Australie, c'était justement de dénoncer ce contrat et de signer avec les Américains et les UK. Et donc, cette raison justifie pleinement le fait d'arrêter la collaboration avec la France sur cette histoire des sous-marins. Il y a une vraie allégeance à la realpolitik et à l'intérêt suprême de l'Australie dans cette histoire-là, du point de vue australien. Et donc, ce qui explique aussi le fait que finalement, les réactions australiennes, elles sont assez calmes, assez tempérées, assez pragmatique par rapport aux réactions françaises. Alors, après, l'Australie a aussi la part belle dans ce jeu-là, puisque c'est pas eux qui perdent ce contrat, mais je pense que ce côté-là de les intérêts australiens d'abord, mais de la même manière, Christophe, hein, que pour moi, en fait, Biden, c'est non pas le retour, mais c'est la continuation du America's First du America First sur la scène internationale. C'est juste qu'en Europe, on peine encore une fois, à avoir ce European Union First quand il s'agit de défendre nos intérêts, ce que peut-être ont moins de remords à faire à la fois nos alliés australiens et nos alliés américains.
Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on sait la réaction du groupe naval ? On n'en a pas tellement entendu parler. On sait qu'ils vont chercher une compensation. Est-ce qu'en fait, à la limite, est-ce que le chiffre est même important de savoir combien le Naval Group va recevoir ? Autant, il est difficile sûrement d'évaluer le déficit d'image que ça peut avoir par rapport à l'industrie française en général et l'industrie française militaire également.
Alors, il y a plusieurs, comme à chaque fois avec vos excellentes questions, Christophe, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, ce qu'on a vu du point de vue de la France, c'est qu'il y avait une volonté quand même, encore une fois, mais parce que ce n'est pas qu'un contrat, mais un partenariat stratégique, de l'idée, c'est pas un mot, un joli mot, mais de préempter voilà, la communication d'abord du point de vue des ambassades, d'abord du point de vue des intérêts nationaux. Et c'est pour ça qu'on a eu la semaine dernière très rapidement des sorties à la fois du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassadeur ici sur les principales chaînes australiennes, sur ABC et avec votre confrère d'SBS, une interview exclusive avec l'ambassadeur. Donc d'abord, c'est le premier élément, c'est que avant de parler de choses et de certains détails contractuels, la France a voulu tout de suite préempter une séquence de communication sur des intérêts stratégiques et bien plus importants. Et puis, en parallèle de ça, et ça, c'est vrai que c'est une remarque intéressante, c'est que pour l'instant, on a, deux versions, en fait, de cette histoire. On a soit la version très, soft diplomatie, soft skills, soft story, c'est-à-dire on a la version de tout des problèmes interculturels, des problèmes entre différences d'adaptation, des personnels australiens, français, les Australiens pas contents à Cherbourg, les Français qui travaillent pas comme les Australiens voudraient travailler. Donc, mais finalement, encore une fois, pour moi, ça reste du détail. Et à l'autre, de l'autre côté du spectre, Christophe, on a cette version officielle des ambassades, très géopolitique. Et il nous manque, comme vous l'avez mentionné, il nous manque en fait la version industrielle. Il nous manque le feedback, le narratif de Naval sur vraiment ce qui s'est passé dans les négociations de ce contrat-là dans un domaine où, encore une fois, il y a beaucoup de fantasmes, qui est celui des sous-marins, de la défense. Pour l'instant, j'ai l'impression, Christophe, mais je ne vais pas parler en leur nom, que c'est un choix qui est délibéré du côté français de pour laisser un peu en retrait d'abord ce côté très industriel et de mettre les projecteurs sur ces questions voilà, de trahison entre alliés, très géostratégique, très géopolitique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, Christophe, et ça a été dit aussi par l'ambassadeur, c'est que, évidemment, ça ne va pas mettre un coup d'arrêt aux collaborations entre entreprises françaises et entreprises australiennes dans d'autres domaines, dans les domaines de l'infrastructure, du transport, etc. Et puis, un des meilleurs exemples, alors est-ce que c'est hasard du calendrier ou est-ce que c'est signal donné pour un petit peu apaiser la situation, c'est ce contrat avec Alstom qui vient d'être signé pour délivrer un certain nombre de métro-trains à Melbourne, je crois, hier, donc 3 jours ou 4 jours après cette crise des sous-marins. Donc vous voyez, pour l'instant, on a ces deux messages qui sont très forts. À la fois, on ne rentre pas encore dans le détail des discussions sur les aspects très industriels et très concrets de pourquoi ce contrat aurait pu ou en tout cas n'a pas abouti, qu'est-ce qui s'est vraiment passé du point de vue industriel, mais à la fois on veut aussi rassurer d'une certaine façon que les collaborations entre entreprises françaises et entreprises australiennes, pour l'instant, elles vont continuer dans d'autres domaines tout ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que je suis un petit peu sur ma faim d'attendre un petit peu d'insight de ces versions industrielles et de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé et à quel moment les choses n'ont pas été alignées entre australiens et français sur cette question du programme des sous-marins.
Et si on regarde un peu vers l'avenir, on en a parlé déjà, il y a l'accord de libre-échange européen, il y a aussi tout ce qui est autour de l'OTAN. Est-ce qu'on peut penser que la France peut vraiment taper du poing et quitter l'OTAN pour une période donnée ou arrêter de s'impliquer dans l'OTAN parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'Australie, mais la France tape du poing aussi beaucoup, voire même beaucoup plus avec les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver et est-ce que ça peut mettre à mal toutes les discussions, même si on en a déjà un petit peu parlé, du contrat de libre-échange entre l'Australie et l'Europe, tout en sachant que dans les dernières heures, Biden a aussi dit à Boris Johnson que, en gros, entre guillemets, et je vais extrapoler, fallait pas mettre la charrue avant les bœufs et que le libre-échange entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, c'était pas forcément pour tout de suite. Ils allaient en parler un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait un peu du changement de balance de pouvoir ici là?
Alors, je crois que c'est deux questions différentes parce qu'il y en a une qui inclut en fait, d'une certaine façon, les États-Unis en premier plan et une autre où les États-Unis sont absents de la discussion. Sur la question de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie, oui, je pense que ça va vraiment avoir des conséquences sur cet accord et sur ces négociations en cours. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu plus de 2 jours, je crois, pour que le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, lui-même disent que forcément ça va avoir un impact sur la négociation de cet accord et qu'on ne pourra pas faire comme si cette dénonciation de contrat n'existait pas. Et encore une fois, hein, Christophe, hein, pour le rappeler à nos auditeurs d'SBS, la France va prendre, hasard du calendrier, la présidence de l'Union européenne en janvier prochain. Et il y a plein de choses à ce moment-là, c'est-à-dire que la France sera aux commandes, d'une certaine façon, de l'Europe au moment où on va s'acheminer vers les derniers rounds de négociations sur cet accord de libre-échange, donc ça va peser. Et puis, Emmanuel Macron lui-même, candidat, devra quand même montrer qu'il a une vision de l'Europe et du respect qu'on doit à la France sur la scène européenne quelques mois avant son élection. Et donc, j'imagine bien que il l'utilisera aussi de manière opportuniste cette dénonciation du contrat des sous-marins entre l'Australie et la France. Donc je crois qu'effectivement ça peut avoir de vraies conséquences sur cet accord-là. Juste encore sur cette question de l'accord, moi ce qui me frappe aussi, Christophe, c'est toujours quand même cette incapacité d'une certaine façon qui est montrée au monde de conclure à des accords avec l'Europe. Si on prend juste à la fois la question du Brexit et cette question des accords de libre-échange, on a quand même un Royaume-Uni qui quitte officiellement l'Union européenne et qui en 6 mois arrive, puisque ça s'est passé à Cornouailles, hein, ça a été les premières discussions ont lieu au sommet du G7 en juin dernier. On a l'Australie et le Royaume-Uni qui arrivent en 6 mois à avoir un accord de libre-échange et 2 mois après, on a ce rapprochement stratégique entre l'Australie et le Royaume-Uni. Donc ça montre quand même encore une fois que ça semble difficile et ça semble plus compliqué en tout cas pour des acteurs hors Europe de nouer des partenariats, de nouer des accords avec l'Europe que ça ne l'est de le faire avec d'autres acteurs qui maintenant sont indépendants comme le Royaume-Uni vient de le faire avec l'Australie. Donc ça aussi c'est quelque chose à mon avis où il va falloir se poser la question, c'est comment l'Europe peut-elle avoir un poids politique plus important, parler d'une seule fois et être plus efficace sur la scène internationale. Donc ça c'est la question de l'accord de libre-échange. Sur la question de l'OTAN, alors, c'est difficile hein, cette question, je ne lis pas dans les boules de cristal savoir si la France va ou pas quitter l'OTAN. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, on a eu un langage diplomatique qui était bien moins diplomatique, j'allais dire moins policier que d'habitude, avec, je mets du côté du ministre des Affaires étrangères et pas de l'ambassadeur ici, mais Jean-Yves Le Drian, qui a dénoncé, je le cite là, un mensonge, une duplicité, une rupture majeure de confiance, un mépris de la part des alliés de la France par rapport à cette rupture du contrat. Et puis il a dit hein, aussi, et ça c'est à noter sur cette question de l'OTAN, que ça pèserait forcément sur la définition du nouveau concept stratégique de l'OTAN. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que de là, ça veut dire que la France va mettre moins de billes, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas être moins active dans cette organisation de l'OTAN? Est-ce que ça veut dire qu'elle va en sortir? C'est très compliqué, je pense que personne n'a la réponse là. Mais en tout cas, de la même manière que ça va avoir un impact sur l'accord de libre-échange vis-à-vis de l'allié australien, cette question-là, cette crise-là va aussi avoir un impact sur la question de la participation et de l'implication de la France au sein de l'OTAN. Et puis on va voir aussi, maintenant on attend aussi un petit peu quand même les réactions américaines qui, un peu comme les réactions australiennes, Christophe, pour l'instant elles sont très mesurées, elles seront très pragmatiques et on a l'impression quand même de s'opposer un peu à un mur, hein. C'est-à-dire qu'il y a la France qui tape du poing sur la table, il y a l'Union européenne qui tape du poing sur la table et puis pour l'instant bon, bah, l'Australie et les États-Unis ont l'air de recevoir les coups et puis de pas tellement réagir et c'est plutôt ça qui m'inquiète, Christophe, parce que in fine ça reste des alliés dans un monde incertain, dans un monde multilatéral. Et donc, il va falloir composer, quoi que la France en pense, et quelle que soit la manière dont elle a été touchée dans son estime, dans son ego, devoir composer avec à la fois les Australiens et les Américains dans les prochaines années.
Affaire à suivre. Merci, Nathanaël.
Merci, Christophe.